Alors aujourd'hui, je vous propose trois homélies en une. J'ai pas dit trois homélies, c'est-à-dire ça va pas durer une demi-heure. Ça va durer le temps d'une homélie, mais trois homélies en une, dans l'espoir de contenter tout le monde. Hein, c'est quand même pas mal, hein. Je fais des efforts. En fait, je veux plutôt vous proposer trois niveaux de lecture de cet épisode de la Visitation, dans notre chemin vers Noël. Trois niveaux de lecture qui sont possibles et qui sont tous les trois vrais, mais qu'on peut prendre de manière différente, sous des angles très différents. Le premier niveau, c'est que vous vous rappelez l'Annonciation qui est juste avant la Visitation. L'Annonciation, Marie a appris par l'ange qu'Élisabeth, sa cousine, a conçu un fils, qu'elle en est à son sixième mois. Et puis à la fin de la Visitation, un verset qu'on n'a pas lu, mais qui est bien la fin de cet épisode, on dit que Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Pour toutes les femmes qui ont été enceintes, 6 plus 3, ça fait 9. Donc Marie est restée auprès de sa cousine jusqu'à l'accouchement. Donc le but de sa visite, la visite de sa cousine, son but certainement d'abord peut-être de se réjouir de la naissance prochaine, mais peut-être aussi tout simplement pour se dire mais en fait je vais aller auprès de ma cousine et je vais lui rendre service, je vais aller l'aider jusqu'à l'accouchement. Et c'est un peu ce que nous fait méditer l'Église. Vous voyez, quand nous méditons le rosaire, le chapelet, et que nous arrivons au mystère de la Visitation, nous demandons à chaque fois un fruit particulier, pour chaque mystère. Et le fruit qui est associé au mystère de la Visitation, c'est le fruit de la charité. On demande la charité. À l'exemple de Marie. Parce que Marie, à travers ce geste-là, à travers cette Visitation, elle fait un acte de charité qui ne lui est pas demandé par Dieu. Elle prend l'initiative. À aucun moment, dans l'Annonciation, vous avez une parole, « Ben voici, ta cousine est enceinte, et en fait, il faut que tu ailles l'aider. » Non, c'est Marie qui prend l'initiative et qui fait cet acte de charité complètement gratuitement. Et elle ne le fait pas n'importe comment. Elle le fait, nous dit-on, avec empressement. Elle a bien écouté saint Paul qui nous dit « La charité du Christ nous presse, ça nous presse. » Avec empressement, elle va visiter sa cousine et l'aider. Et puis, ce n'est pas n'importe quel acte de charité non plus. Hein. Bien sûr, ça touche à la vie, mais c'est aussi un long voyage pour elle. Elle est enceinte elle-même et elle fait ce long voyage de Nazareth à Ein Kerem, c'est-à-dire 150 kilomètres. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de chéroute, il n'y avait pas de bus qui faisait le trajet à l'époque. C'est tout un périple pour elle. Et donc il y a un acte de charité, une prise d'initiative de la part de Marie qui est absolument admirable. Quand on médite le rosaire, l'Église nous met cet exemple sous les yeux. Moi-même, j'ai été édifié ces derniers temps par des prises d'initiative de jeunes, d'ados, d'adolescents et puis d'étudiants également, mais aussi des jeunes familles, en se disant, mais en fait, on va arriver proche des fêtes et il y a des personnes isolées, il y a des personnes seules, il y a des personnes pauvres, il y a des personnes tristes, et ben on va aller les visiter, on va aller leur donner de la joie, on va faire en sorte qu'ils ne passent pas Noël toutes seules. Et ce genre de prise d'initiative, sans que ce soit demandé par personne, est absolument admirable et justement correspond à cet acte de charité de la part de Marie qui va visiter sa cousine. Ça, c'est le premier niveau de lecture. On est arrivé au premier étage. On monte encore les escaliers, on arrive au deuxième étage. Deuxième étage, Marie visite sa cousine pour être confirmée elle-même dans sa propre maternité par le signe que Dieu lui a donné. Quel est ce signe ? Une femme qui, dans sa vieillesse, a conçu, elle qu'on appelait la femme stérile dans tout Aïn Karem, et qui est enceinte. Une conception anormale, qui sort de l'ordinaire, et qui est donnée au moment de l'Annonciation comme un signe à Marie pour dire « Mais toi aussi, ta conception virginale, elle est possible, car rien n'est impossible à Dieu. » Ça lui est donné comme un signe. Si c'est vrai pour ta cousine Élisabeth, eh bien, tu peux croire que c'est vrai pour toi, Vierge Marie. Et elle ne s'y trompe pas, parce que quand elle arrive vers sa cousine, elle entend ses paroles d'une voix forte. Élisabeth s'écrie « Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles. D'où m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» La mère de mon Seigneur. Elle reçoit des paroles de confirmation de sa propre mission, de sa propre vocation, de sa propre conception virginale. Voyez, notre vie de foi, elle est remplie de signes. On viendra, on accourra aussi avec empressement comme la Vierge Marie auprès de la crèche pour voir le signe qui nous a été donné. C'est le même signe qui a été donné au berger il y a 2000 ans. Voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Plein de signes dans notre vie de foi. Le célibat consacré est un signe au cœur du monde, au cœur de l'Église. Les miracles, bien sûr. Mais à notre niveau, une simple rencontre, une simple parole peut être un signe. Alors, il n'y a pas des signes à tous les coins de rue. Il ne faut pas faire que ça, que chercher des signes partout. Mais il y a des signes que Dieu nous donne. Dans ma propre vie, il y a des signes qui ont été très importants pour ma propre vocation. Mais dans ma propre mission, des signes me guident. J'en ai pas tous les jours. Mais j'ai ceux que Dieu m'a donnés au bon moment, au moment opportun pour me guider. Et à nous d'être attentifs aux signes que Dieu nous donne. On est arrivé au deuxième étage. J'espère que j'ai perdu personne en route. Tout le monde est là, tout le monde est arrivé au deuxième. On va monter encore un peu. On va arriver au troisième étage, troisième niveau de lecture de la Visitation. La Visitation est une référence à un épisode de l'Ancien Testament. Cet épisode, c'est l'arrivée de l'Arche d'Alliance à Jérusalem. L'Arche d'Alliance, vous savez, c'est cette présence, c'est un petit meuble, mais c'est en même temps cette présence quasi sacramentelle de Dieu au milieu de son peuple. Qu'est-ce qu'on a mis dans l'Arche d'Alliance ? On a mis les tables de la loi, on a mis des morceaux de manne qui nous ont nourris au désert. On a mis les choses importantes, tous les signes qui ont fait que Dieu a fait alliance avec son peuple. Arche d'alliance. Quand on le posera dans le Saint des Saints, que ce soit dans la tente de la rencontre au milieu du désert, ou que ce soit dans le Saint des Saints, dans le temple à Jérusalem, on dira c'est le trône de Dieu. Dieu, il est assis ici, il remplit de sa gloire ce trône. Et cette arche d'alliance, avant d'arriver à Jérusalem, séjourne 3 mois dans une ville des montagnes de Judée. Tiens, comme Marie. C'est bizarre, hein ? Comme Marie. Elle séjourne 3 mois dans une ville des montagnes de Judée. Au moment où cette arche arrive à Jérusalem, David se met à danser autour de l'arche, comme Jean-Baptiste se met à danser dans le sein de sa mère. Incroyable. Est-ce que Marie ne serait pas la nouvelle arche d'alliance ? Est-ce que nous ne disons pas, quand nous récitons les litanies de la Vierge Marie, que Marie est cette nouvelle arche d'alliance ? Qu'elle est le trône de la sagesse ? Et donc Marie est véritablement cette nouvelle arche d'alliance. Marie est celle qui porte cette présence de Dieu au cœur de l'humanité, au cœur du monde, au cœur de l'Église. L'Emmanuel, Dieu avec nous, qui est présent dans tous les domaines de notre vie et qui nous fait faire des étapes. Vous voyez, un peu comme la nuée au milieu du désert qui conduit le peuple, l'arche d'alliance qui conduira le peuple quand il entrera dans la terre promise et qui prendra possession justement de toutes les villes de cette terre promise. Elle nous fait faire des étapes. Et donc nous nous posons à une semaine de Noël, même pas cinq jours de Noël, cette question ultime: quelle est la réalité où je refuse que le Seigneur vienne? Si le Seigneur il est présent dans tous les domaines de ma vie, il y a peut-être une réalité que je refuse à Dieu, que je refuse de montrer à Dieu, ou je refuse de lui donner sa place. Je refuse qu'il vienne habiter. Peut-être cette dernière question, nous pouvons la déposer, nous pouvons la poser nous-mêmes, hein, devant la crèche, prier devant la crèche dans cette dernière semaine, et poser cette question: quelle est cette réalité où je refuse à Dieu, hein, que le Seigneur vienne habiter cette réalité de ma vie, de mon quotidien? Voilà, que le Seigneur vienne habiter à Noël toute notre vie.